Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous n'aimez pas faire du cinéma dans tous les sens du terme, vous préférez la scène avec une voix qui a fait de vous l'élu du public, une voix qui va toutefois vous empêcher de répondre à ma formule traditionnelle. Bonjour Isabelle Mergaud.
Bonjour.
Ah oui, vous dites quand même bonjour, c'est très difficile. Alors, vous êtes à l'affiche du Théâtre des Nouveautés depuis 2 jours avec une pièce dont on va parler tout à l'heure, une comédie dont vous avez le secret, mais on va revenir à des dates clés de votre vie.
D'accord.
C'est le principe de cette émission. Alors, la première date que j'ai trouvée, c'est le 17 octobre 1979. Écoutez cette musique, c'est la bande originale d'un film. La Dérobade.
Ah oui.
Voilà. Et ça, c'est votre première apparition à l'écran.
Ah oui. Ah oui, c'était... moi, j'étais secrétaire, pour gagner ma vie. Et c'est mon premier film. Et on me met... Bah, il y avait des prostituées. Alors, on me met en prostituée.
Ça commence bien.
Ça commence bien. Et je gagne de l'argent comme ça. Et je dis... Et puis, mon rôle après, ça a été le rôle d'une bonne sœur. Et je dis à ma mère... C'était un petit rôle. Et je dis à ma mère, tu te rends compte, maman, je passe de la prostituée à la bonne sœur. Mais enfin, c'est formidable. Le monde s'ouvre à moi, quoi. J'étais très fière de faire le grand écart comme ça.
Alors, il faut savoir que La Dérobade, c'était au départ un roman à succès d'un million d'exemplaires de Jeanne Cordelier.
Oui.
Cette femme a été découverte par Paul Guimard, l'auteur des Choses de la vie, et qui était en même temps, on l'a oublié, le premier animateur de débat politique à la radio après la guerre avec la Tribune de Paris.
Ah bah vous m'apprenez.
Voilà, il a fait plein de choses. Alors vous êtes née Isabelle Mergaud dans une famille de médecins, un père chirurgien, une mère dermatologue et chercheuse. Vous avez grandi à Aubervilliers et vous avez été une bonne élève à l'école.
J'étais assez renvoyée, mais... J'étais là, je passais de justesse, quoi.
Oui, mais vous étiez un peu le mouton noir de vos camarades.
C'est-à-dire le mouton noir...
Vous les faisiez rire, parce que...
Oui, mais j'ai compris tout de suite, avec mon... J'avais un défaut de prononciation énorme quand j'étais môme, et j'ai compris tout de suite qu'il fallait, je sais pas, c'est instinctif, que si je voulais pas être rejetée, il fallait que je fasse rire.
Voilà.
Et donc tout le monde après voulait être ma copine, quoi. J'ai retourné le truc, je l'ai senti, mais ça on le sent très vite, à la maternelle.
Hein. Oui, et alors ce qui est curieux, c'est que bon, vous avez été renvoyée de différentes écoles, vous avez passé le bac en candidate libre.
Oui, quand vous n'êtes pas représenté par une école, forcément.
Mais pourquoi être envoyé de l'école
Je supportais pas le cadre, l'autorité, je supportais pas, je voulais faire... J'avais un petit ami, je voulais le voir, je voulais aller au café, je voulais fumer des cigarettes, je voulais me promener dans Paris. Je passais les examens comme ça, vraiment, mais à l'arrache, quoi. J'étais ni un cancre, ni un très bon élève, c'était moyen, je passais comme ça.
Et votre premier objectif, c'était les Beaux-Arts, je crois.
Je sais pas quoi faire. Alors, de toute façon, j'avais envie de rien. Et c'est pour ça que c'est compliqué. Les enfants qui veulent... les parents qui sont inquiets quand les enfants ont envie de rien à 18 ans. À 18 ans, on ne sait pas trop. Alors, je me suis dit, allez, je fais les Beaux-Arts.
Voilà. Et puis, vous avez fait des cours de théâtre avec une copine. Et c'est une copine qui vous a entraîné là-bas.
Voilà, un soir, oui, c'est ça, les cours du soir. Mon père était très inquiet, il venait me chercher. Et puis, ça a été très vite. Parce que mon défaut de présentation a fait que... J'ai été remarquée tout de suite. Et c'est comme ça que je l'ai fait, La Dérobade. C'est que, il y avait quelqu'un de casting qui m'a repérée. J'ai rencontré Daniel Duval. Je l'ai fait rire. Et il s'est dit, tiens, une prostituée rigolote, et puis on est devenus très, 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 très amis après avec Daniel.
Alors, Isabelle Mergaud, il se trouve, effectivement, votre défaut de prononciation, vous auriez pu le perdre facilement.
Oui.
Et c'est un orthophoniste qui vous a dit, gardez-le.
Oui, mais complètement. Parce qu'il me dit, qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie? Alors, parce que quand vous êtes dans la séduction, etc., vers 15, 16 ans, le défaut de prononciation, surtout aussi. Moi, mon mec, il s'appelait Jean-Charles. Je l'appelais bébé. Ça fait partie de votre identité aussi, quand même, hein. Alors, c'était compliqué. Alors, je me suis dit, tiens, pour être plus séductrice, Et l'orthophoniste me dit, mademoiselle, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Elle dit, je fais les Beaux-Arts, et puis en même temps, je prends des cours de théâtre. Il me dit, écoutez, si vous faites du théâtre, ça peut vous aider. Moi, votre défaut de prononciation, en trois cours, je vous l'enlève. Mais c'est une position de la langue. Attendez de voir. Et de fait, j'ai été... Alors, je l'ai gardé, quoi. C'est... Voilà.
Il y a quelqu'un de très célèbre qui a eu le même problème que vous et qui portait le dentier de la paix pour lui. C'était Winston Churchill. Je ne sais pas si vous le savez. Il avait un chuintement aussi. Ouais. Et pendant la guerre, pour ses discours, on lui avait conçu un dentier de la paix spécial pour qu'il ne chointe pas.
Mais c'est pas vrai. Si. Mais je suis comme Winston Churchill. Trop forte.
Alors, dans vos castings aussi, vous avez tourné dans Diva.
Oui.
De Jean-Jacques Benex.
Oui, oh, un tout petit truc.
Hein. Oui, la fille du jeu vidéo.
Ah, un tout petit truc, là. C'était une apparition. Mais j'ai pas arrêté de faire des... Moi, j'étais pas du tout passionnée par le métier d'actrice pour le cinéma. Je voulais faire du théâtre. Mais je gagnais ma vie. Je gagnais mieux ma vie qu'en étant secrétaire. Alors, je me suis dit, c'est ça qu'il faut que je fasse. Il faut que je fasse des petits rôles et tout. Donc, je m'en foutais. Mes copines me disaient, mais tu fous ta carrière en l'air, tu te mets à poil, tu acceptes des petits rôles, etc. Je fous rien en l'air puisque je ne veux pas faire carrière.
Voilà.
Je voulais être libre. Je voulais dépendre de personne. Je voulais pas qu'on m'entretienne. Et donc, la liberté, c'est l'argent. Ça, on peut dire ce qu'on veut, surtout quand on vit à Paris. Et donc, je voulais gagner mon argent et ne rien devoir à personne. Donc, je gagnais mon argent. Puis un jour, j'en ai eu marre. Bon, c'est sûr de me trimballer en petite tenue. Ça, alors là, tous les costumes, mais de toute ma carrière, ça tient dans un tiroir. Hein. C'est pas.
Mais il y a eu quand même d'autres choses, on en parle dans quelques instants avec une autre date, le 24 février 2007. A tout de suite sur Sud Radio avec Isabelle Mergaux.
Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Isabelle Mergaux. Elle et lui au théâtre des nouveautés, on en parlera tout à l'heure. Mais une date importante, 24 février 2007, ça vous dit quelque chose?
Je pense.
Oui, au Châtelet, au théâtre du Châtelet.
Oui.
C'est votre premier...
César.
Voilà.
Enfin, mon premier et mon dernier.
Oui, César du premier meilleur film. Voilà. Et c'est la soirée présidée par Claude Brasseur, présentée par Valérie Lemercier, une soirée dédiée à Philippe Noiret qui a disparu quelques mois plus tôt.
Oui.
Alors, vous êtes dans la salle, vous entendez votre nom?
Non, je ne suis pas dans la salle.
Vous n'y êtes pas?
Non.
Pourquoi?
Alors, il y a deux choses. Je m'étais fait opérer d'une dent, j'avais un petit renflement. Mais j'avais ma robe, j'étais habillée, j'étais pomponnée, j'étais... Et j'ai pas pu y aller. Parce que je me suis dit, si j'ai le César, je crois que mes jambes vont trembler. J'avais peur de pleurer. J'avais peur de montrer mon émotion, de pas pouvoir articuler, je suis très, très nerveuse. J'avais peur que mon cœur s'emballe. J'avais peur de pas assurer, d'être bon. Et j'ai tout arrêté. Et j'étais faire des courses. J'étais comment ça s'appelle pour les animaux, là?
Chez Animalis.
Chez Animalis, ouais. Voilà. Il y avait une nocturne. et j'étais à la caisse. Et là, il y a une copine qui m'appelle et qui me dit, t'as le César. Et j'étais. Mais j'ai toujours regretté de ne pas être venue parce que j'ai beaucoup de mal à contrôler mes émotions. Quoi. Je ne voulais pas pleurer, je ne voulais pas bafouiller, je voulais être à la. Enfin, voilà, c'était le foutoir dans ma tête.
Voilà, si je comprends bien, vous avez préféré les chiens aux cabots, en quelque sorte.
Un petit peu. Non, il n'y a pas que des cabots, il ne faut pas exagérer. Oui, mais c'est un petit peu ça.
Alors, ce film a eu un énorme succès, 3 millions d'entrées. Oui. On l'a vu jusqu'en Israël. Et vous avez même eu le Mérite Agricole grâce à ce film.
J'étais très fière.
Oui.
Ah oui, parce que Le Monde m'avait descendu en disant manifestement, Isabelle Mergaux n'a jamais mis les pieds à la campagne. Parce que franchement, c'est complètement, complètement artificiel. On n'y croit pas du tout. Bon, bref. Et les agriculteurs ont dit, mais elle nous a vraiment bien représenté. C'est eux qui ont demandé que j'ai le poireau, comme on dit.
Oui. Alors, ce film, ça s'appelle Je vous trouve très beau. Au départ, c'est né lorsque vous avez vu un reportage à la télévision sur les hommes qui partent en Russie chercher une femme.
Ah ouais, c'était incroyable. Ah ouais, c'était des racines et des ailes. J'étais choquée, quoi. Ils allaient faire leurs courses. Il y avait un mec qu'on suivait, il allait faire ses courses. Et puis on le voyait face caméra. Et puis il disait, oh, ça y est, là je suis amoureux. Je suis amoureux, j'adore. Je suis tombée amoureuse de cette fille. Et puis, on lui dit comment il s'appelle. Puis, eh ben, comment il s'appelle. Il avait même pas son nom, quoi. C'était fou, quoi. Et il l'avait ramené en France. Et on sentait bien que la fille, elle essayait de s'en sortir de sa misère, quoi. Ouais. Et je me suis dit, mais il y a un sujet à faire, quoi. Sans se moquer des hommes qui vont chercher. J'ai pas d'intérêt à me moquer d'eux. Ils sont assez. Ils parlent d'eux-mêmes. Mais il y avait vraiment un sujet à faire. Ouais, j'étais inspirée là, par Des Racines et ouais. Des Ailes.
Et vous avez écrit le scénario et vous ne vouliez pas réaliser le film. Je crois que c'est Michel Blanc qui vous a convaincu de réaliser le film avec le producteur qui a dit au moins on ne te trahira pas.
Voilà, Jean-Louis Lévy. Moi, je n'avais jamais réalisé de ma vie. Et puis, je vous dis, quand j'étais dans les plateaux de cinéma, je ne regardais pas du tout comment ça. Moi, je bouquinais. Je m'en fous. Complètement, je ne savais même pas comment on éclairait. Bon, bref, et donc j'écris ce scénario, c'était pas mon premier, j'en avais écrit plein de scénarios. Et là, Michel Blanc et Jean-Louis Lévy, mon producteur, me dit : tu dois le réaliser. Et moi, je dis : mais je ne sais pas du tout comment on fait, je suis pas quelqu'un de l'image, je suis quelqu'un de l'écriture. Et Michel me dit : écoute, si tu sais ce que tu veux, il suffit de bien t'entourer, de bien expliquer ce que tu veux, et tu auras ce que tu veux. Et entoure-toi bien. Alors, moi, j'étais complètement paniquée. Puis, plein de copains me disaient, fais-le, ce film. Si ça marche pas, si tu te plantes, tu redeviens scénariste. Moi, j'écrivais un scénario par an, à peu près. Je gagnais ma vie comme ça. Et c'est le côté, t'as rien à perdre. Alors, j'y suis allée. Puis, ça
a marché. Alors, à l'écran, on voit juste votre avant-bras, je crois, dans un taxi.
Ouais. Pour vous dire que j'aime vraiment pas faire de cinéma. Ah oui. Mon avant-bras, oui. Non, sinon, c'est vrai que si j'aimais tourner des films, je me serais distribué moi-même aussi.
Voilà. Et vous avez quand même tourné quelques films comiques. Il y a eu, pour Sandrine, que t'as plus rien. Il y a eu aussi Prof avec Patrick Schulman. Vous êtes une professeure lunatique aussi.
Oui.
Ça, c'est des petits films que vous faisiez encore une fois pour l'argent.
Ah, complètement. Ah, j'ai pas. Oui, parce que j'ai trop le trac. J'ai un trac qui me dessert. J'étais trop. Je suis pas faite pour ça. On doit. En fait, voilà, c'est ça la réussite, c'est de savoir ce pourquoi on est fait, quoi. C'est tout. Et c'était pas ma place. Quand vous vous sentez pas à votre place, vous vous sentez être une imposture, ou alors vous vous sentez mal dans votre peau, vous avez envie d'être ailleurs. Ça va pas du tout. Quand vous faites un métier et que vous avez qu'une envie, c'est de partir, c'est que faut partir.
Oui. Et le cinéma, il y a quelqu'un qui a dit un jour, le cinéma, c'est 8 heures d'attente pour une minute de génie. Ça correspond à peu près à la réalité.
Oui, sauf que moi, je n'avais même pas la minute de génie. Parce que si c'était comme la plupart du temps, c'était pour me déshabiller, je ne sais pas. Non, mais je gagnais mon argent et j'étais libre. C'était la seule...
Et il y a quelqu'un qui a changé votre vie.
J'y refusais tous, beaucoup. Au nom d'une espèce de...
Pierre Grimblat, vous jouez d'abord, et c'est lui qui vous a dit d'écrire.
Mais c'était incroyable. Je faisais un Navarro, et je faisais la nounou dans Navarro, j'avais un petit rôle comme ça, récurrent. Et puis il me convoque dans son bureau, et il me dit, voilà Isabelle, je voudrais faire pleurer la France, et je voudrais que tu m'écrives un scénario.
Il était le producteur de Navarro, il faut le préciser, Pierre Grimblat. Oui.
Entre autres, oui. Je dis, Pierre, je sais pas écrire, rien du tout. En plus, s'il devait écrire quelque chose, ce serait pour faire rire. Il me dit, non. Tu vas faire pleurer la France. Alors, je dis, c'est combien?
Voilà.
Non, mais tout le monde croit que je suis vénal. On peut penser que je suis vénal. Non, c'était pour payer mon loyer, quoi. Je rentre à la maison, puis je cherche. Je me dis, mais pourquoi il me propose ça? Il est fou. Même, je trouvais qu'il y avait Anguille Soureau. Je me dis, mais qu'est-ce que ça cache et tout. Enfin, bon, bref. Et je trouve une histoire. Alors, le lendemain, je l'appelle. Je dis, Pierre, je peux vous voir? Je lui raconte mon histoire. Il me dit... J'ai des frissons dans les bras. Ça va. Allez, je te paye, tu écris. Oh, alors, c'était la panique. Et puis, j'avais une machine à écrire et tout. J'avais du blanc correcteur à l'époque. On n'était pas. Et j'ai écrit. Et ça a, mais cartonné.
Ça s'appelait La Lettre Perdue.
La Lettre Perdue.
De Jean-Hugues Bertoncelli avec entre autres Michel Galabru. Ça a eu tellement de succès que ça a été rediffusé presque immédiatement à la télévision.
Attendez. C'était l'époque où il y avait pas beaucoup de chaînes. Ouais. Bon, bref. Ça a eu tellement de succès le soir que France Inter avait une émission qui a été déprogrammée pour recevoir Jean-Louis Bertoncelli qui avait réalisé le film pour pouvoir en parler tout de suite. Et avec Galabru qui faisait un rôle qui a fait pleurer aussi. je ne sais pas, ça n'aurait pas eu de succès comme ça maintenant avec toutes les chaînes qu'on peut avoir. Là, c'était au tout début, c'était, on en était encore avec la machine à écrire et les trois chaînes. Quoi,
voilà. Et Pierre Grimblat, qui vous devait tout, je vais vous raconter une chose que vous ne savez peut-être pas, il me l'avait raconté, il nous a quittés voici quelques mois. Il a débuté comme assistant à la chaîne parisienne qui était la radio nationale sur les Champs-Élysées. Il y avait la rue de Washington où il y avait les dames de mauvaise vie, comme on dit. Oui. Et donc, il allait voir ces dames-là et après, tout le monde allait les voir. Et après, il y avait une feuille verte à la radio où on signait pour les comédiens. Les filles venaient signer la feuille verte et touchaient le cachet directement. Et c'est comme ça que beaucoup de collaborateurs de la chaîne ont vécu de bons moments. Payé par la radio.
Ah d'accord, on va voir, d'accord.
Alors parmi les scénarios que vous avez écrits, il y a aussi un film qui a eu beaucoup de succès avec Gérard Jugnot comme meilleur espoir féminin.
Oui.
Et ça a été un moment de rêve parce que Jugnot, vous aviez de l'admiration pour lui depuis vos jeunes années, Isabelle Mergault.
Ah bah oui, le Splendide, c'était... moi j'avais été les voir au théâtre, c'était un rêve et Gérard m'appelait régulièrement. Pour me dire, j'aimerais bien écrire, tu veux pas écrire pour moi ? Alors, il me donnait le sujet, par exemple, Casque bleu. Et j'ai dit, moi j'ai toujours peur d'être un imposteur. Et je sais pas comment on dit au féminin.
Oh, une imposteur.
Ça n'existe pas, il y a que les hommes qui sont imposteurs. Non, non. Et j'ai toujours peur d'être un imposteur, et de ne pas posséder mon sujet. Alors, il me dit, le casque bleu, par exemple. Je dis non. Je dis, je connais pas, c'est pas pour moi, Par contre, là, il me dit, je voudrais faire un film. C'est une gamine comme ça qui devient une star et puis elle laisse son père. C'est un petit épicier. Alors j'ai dit, ah, ça me plaît plus. J'ai dit mais et puis alors je réfléchis. J'ai dit mais tu seras pas épicier. Tu seras coiffeur. Il me dit ah non pas du tout. Ah non je peux pas être coiffeur. Ah non c'est pas mon style. C'est pas... Je dis tu seras coiffeur. On va se marrer. Tu seras coiffeur. Alors il me dit bon. Puis il m'a fait confiance. Puis voilà. Puis
et le film a marché. Et je crois que Le Père Noël est une ordure, c'est aussi une pièce et un film culte pour vous, Isabelle Mergault.
Oh bah oui, mais pour tout le monde. Pour tout le monde. Le Père Noël est une ordure, c'est un film, c'est culte pour Oui, enfin, moi c'est surtout la pièce, parce que j'ai été la voir. Quoi.
Oui, mais on est quelques-uns à l'avoir vu quand il n'y avait personne. Oui. Et quand le film est sorti, pour tourner les premières scènes sur les boulevards, le titre, ils n'ont pas dit le titre à la mairie de Paris, ils ont dit Les Bronzés fêtent Noël, parce qu'ils avaient peur que Le Père Noël est une ordure, que soit refusé l'autorisation de tourner.
Ah, je ne savais pas.
Et Jugnot, pour vous, tourner avec lui, c'était un rêve. Jouer avec lui, c'était un rêve pour vous. Vous l'aviez devant vous.
D'écrire pour lui.
Écrire pour lui.
J'étais fière d'écrire pour lui. Il représentait toute ma jeunesse. Ma jeunesse, on dirait qu'il est beaucoup plus vieux que moi, pas du tout. Mais enfin, il est connu très jeune. Et puis après, je l'ai fait tourner. Après, j'ai écrit une pièce pour lui.
Ben oui, vous avez écrit d'autres pièces. On en reparle dans quelques instants à travers une date très récente, le 21 janvier 2020. À tout de suite sur Sud Radio avec Isabelle Mergault.
Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invitée Isabelle Mergault, 21 janvier 2020, il y a deux jours, première au Théâtre des Nouveautés de Elle et Lui, votre sixième pièce, votre retour à l'écriture, et ça, c'est la sixième pièce d'après mes calculs.
Ah c'est marrant, ok, si vous le dites.
En tout cas, c'est ce que j'ai calculé. Alors, c'est encore un sujet totalement fou, c'est une femme mariée qui voit débarquer une femme qui n'est autre que son ancien mari dans sa famille.
Voilà.
Au moins, c'est clair.
Je ne le reconnais pas tout de suite et pour cause.
Oui.
Puisque ça faisait au moins 40 ans que je ne l'avais pas vu. Et il me dit, tu ne me reconnais pas, mais regarde dans mes yeux, tu ne reconnais pas mon regard. C'est moi, Jean. Mais il arrive en Jeanne. Oui. Voilà. Et puis, il va s'installer à la maison. Et puis, ça va... Ça va dégénérer.
Oui, parce que vous avez un mari.
J'ai un mari, Laurent Gamelon, oui. Qui est tout en muscles, oui. Tout en masculinité, et puis qui va quand même un petit peu craquer pour elle, enfin, et mon fils aussi, enfin bon, voilà, mais c'est drôle. La première, elle a été très dure pour moi. Le jour de la première, je suis pétrifiée par le trac qui me descend plutôt que m'élève, et voilà, et hier, ça s'est envolé, j'étais très très contente, c'est très drôle, les gens rient beaucoup.
Oui, c'est ce qu'on m'a dit, les gens rient beaucoup, c'est une tradition avec vous. Comment vous est venue cette idée ? Parce que faut quand même l'imaginer.
Je sais pas, vous savez, ça c'est très très curieux. Comment viennent les idées ? Alors, à part des sujets très ponctuelles, comme par exemple Je vous trouve très beau, où j'avais vu une émission qui m'a inspirée. Sinon, le reste, c'est ce que je dis tout le temps, c'est les embouteillages. Moi, j'ai rien à faire dans les embouteillages. La radio déconne, je sais pas comment la régler. Il y a un code à mettre, je suis paumée. Bref, donc j'écoute pas la radio. Ça cogite. Et puis, il y a un sujet, à un moment donné, qui s'impose à vous, qui revient. Vous dormez, il vous réveille le matin. Vous lui dites de partir, mais il est là. Et ben voilà, et puis vous y allez, puis vous écrivez dessus. Mais non, il n'y a rien nu qui m'est...
Non mais en plus, oui, bon, l'homme déguisé en femme, on se souvient de la cage aux folles. Ce qu'on a oublié, c'est que la cage aux folles, quand ça a été créé en 73, personne n'y croyait, à commencer par le directeur du Palais Royal, Jean-Michel Rouzière.
Ah, il avait le nez, hein.
Il avait le nez. C'est-à-dire que pendant un mois, il n'y a eu aucune location, il a failli y arrêter, puis un matin, ça a commencé et ça a duré 2000 soirs.
Ah, mais moi, je l'ai vu. Mais là, c'est pas la cage aux folles. Là, vraiment, l'acteur, Philippe Vieux, est vraiment, c'est vraiment une femme, quoi. Et c'est vraiment, c'est pas un acteur à qui on a mis une perruque. Il y a une vraie métamorphose. On doit y croire. Il a fait un traitement hormonal. On lui a tout coupé. Bon, enfin, pas pour de vrai, hein.
Oui.
Il rentre à la maison, ce pauvre garçon. Mais, et il honore sa femme. Mais, non, voilà. Et ça, c'est ça qui est bien, c'est que c'est très drôle, mais on n'est pas dans la caricature.
C'est un sujet d'actualité en plus, c'est un sujet d'aujourd'hui. Et surtout, alors quand vous écrivez, c'est une caractéristique, vous êtes la première à rire de vos dialogues, Isabelle Mergault, sinon vous rejetez la page.
À rire, je ne sais pas, mais oui, il faut que ça claque, quoi. C'est une musique, quoi. Oui, j'écris lentement. Mais sûrement, c'est-à-dire qu'en fait, je fais qu'une version tout le temps.
Oui, mais on sait ce que représente l'écriture, c'est des mois et des mois de souffrance, de réflexion. Et il vous faut, vous avez fait votre calcul, 2 rires par page pour que ça fonctionne.
Moi, il faut au moins que... Alors parfois, ça fait plus en représentation, parce qu'il faut voir avec la puissance comique intrinsèque de la personne qui interprète, qui peut faire rire par un « Salut tout le monde !» Alors que, bon... c'est pas drôle en soi. Donc, alors, parfois, il y a même encore plus de rire. Et puis, parfois, vous écrivez une réplique qui vous fait mourir de rire. Et c'est le bide total. C'est rare, mais ça arrive.
Et puis, il y a une chose très importante, il y a le rire, mais la poésie. Vous veillez toujours à ce qu'il y ait de la poésie dans vos textes, Isabelle Mergault.
Je le fais pas exprès. Ça, c'est ma personnalité. Moi, mon rêve, ça aurait été d'écrire un film comme Y a-t-il un pilote dans l'avion? Ouais. C'est-à-dire où il y a aucune place pour la tendresse et ta, 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 ou les Monty Python. Mais je sais pas comment je suis foutue. C'est comme ça. Il faut à un moment donné qu'il y ait un peu de tendresse, un peu d'humain, un peu de. Je n'y arrive pas à faire. J'y arriverai. Je suis sûre qu'un jour j'y arriverai. À 100% drôle, sans aucune émotion. Mais c'est compliqué.
Oui. Et en plus, vous allez toujours jusqu'au bout de votre travail. Quand vous avez fini, vous dites je peux pas faire mieux ou ça, je peux pas aller plus loin.
Ah bah, je peux pas faire mieux avec ce qu'on m'a donné à la naissance. C'est pas dans l'absolu que c'est parfait. C'est moi, c'est parfait avec ce que je sais faire et ce qu'on m'a donné. Et de le travail fait, je le vois et je me dis bon, voilà, là c'est fini. Je peux pas. Ça peut être perfectible, ça peut être certainement et tout, mais moi, à mon niveau, ça peut pas être mieux.
Voilà. Donc, voilà. Et le public aime ou pas, c'est pas votre problème.
Non, mais j'ai l'incroyable prétention ou modestie, je ne sais pas, de me dire que si ça me plaît, comme j'ai un peu les goûts de tout le monde, quoi. Je ne suis pas quelqu'un de déjanté, d'extraordinaire et tout, je suis une petite Française lambda, et je me dis que si ça me plaît, ça va plaire. C'est comme un bébé que vous avez, mais je l'ai déjà raconté, mais parce que c'est vrai ça, j'ai une copine, elle a accouché, il était moche, mais vraiment, je me dis, pas ça, c'est... Je ne sais pas où il avait trouvé ses oreilles. Je ne sais pas. Il était un peu poil. Enfin, il était moche. Et elle me dit, t'as vu comme il est beau.
Oui.
Et quand elle a dit, t'as vu comme il est beau, je l'ai trouvé beau.
Oui.
Parce qu'elle le trouvait beau. Et elle n'est pas prétentieuse. Elle est juste amoureuse. Et moi, quand j'écris ou quand je fais... par exemple, je vous trouve très beau, je disais aux gens, allez voir, vous allez voir, c'est vachement bien. C'est horrible, c'est moi qui l'ai fait. Mais je l'aimais. Et si vous aimez pas, bah faut arrêter. Donc moi, mes textes, je les trouve. Ah ouais, oh oui, il est beau. Voilà, et puis alors, il y en a d'autres qui vont trouver qu'il a les oreilles trop décollées, mais moi, je l'aime. Oui. Et sinon, je le sors pas. Voilà.
Mais voilà. Elle est lue au théâtre des nouveautés. Vous l'aimez, et le public déjà aime, apparemment, des prêts.
Ah, ils ont ri. Hier, non, franchement, je voudrais dire au public d'hier qu'ils arrêtent un peu, parce qu'on n'a pas pu tout caser. D'abord, on est sortis tard. Oui. Ça nous fait perdre un temps fou. Et que j'ai pas pu caser une réplique, parce que c'est passé sur les rires. Non, hier, c'était... les gens... Oh, ça nourrit le rire. C'est comme... moi, je suis comme une petite fleur quoi, qui a soif, et les rires arrivent, et... Je sais pas, ça me redresse, tout va bien, je suis amoureuse.
Voilà, et vous êtes toujours surprise que les gens vous aiment, Isabelle Mergault ?
Oui, peut-être parce que moi-même, je n'ai pas tellement de sympathie pour moi-même, donc je suis toujours étonnée qu'on puisse m'aimer, quoi. C'est comme ça. Ouais.
Et autant vous détestez le cinéma, autant vous aimez le théâtre, ah, oui. ça c'est votre vie.
Ben oui, mais parce que c'est du direct, le public est là, je reçois directement. Le cinéma, même avec tous les succès qu'on peut faire, le film, il est en... Vous ne recevez... Moi, j'ai besoin des gens, j'ai besoin qu'on me... d'être nourri par les réactions, par...
Et curieusement, vous avez besoin de 800 personnes devant vous pour avoir des réactions, mais un dîner en tête-à-tête avec des comédiens, ça ne vous intéresse pas vraiment.
Alors, moi, je ne dîne pas. Oui. Non, je... Alors, d'ailleurs, j'ai tellement inventé d'excuses que maintenant, c'est fini, on m'invite nulle part.
Alors, vous êtes tranquille.
Oui, maintenant, je peux même pas dire non, puisqu'il n'y a plus.
Voilà.
Alors, je dois faire un dîner par an.
Ah, quand même.
Ouais, je suis au maximum, là.
Ah ouais.
Mais sinon, j'ai envie d'être seule, de rentrer, j'ai pas grand-chose à raconter.
En revanche, sur scène, vous avez des choses à raconter. Vous aviez déjà joué il y a quelques mois, et ça a été un triomphe avec Gérard Jugnot dans ce théâtre des nouveautés, La Raison d'aimer.
Ouais.
Ça a été un grand succès. Et vous savez que le théâtre des nouveautés, au départ, c'était pas là, c'était près de la Bourse, à quelques centaines de mètres de là. Il y avait des opéras comiques, et il y a quelqu'un qui a débuté comme choriste au théâtre des nouveautés, c'était Hector Berlioz.
Ah oui ?
Oui.
Ah ben c'est incroyable, voilà. Ça.
Et puis il y a quelqu'un. Alors vous êtes à l'affiche dans Elle et lui, et puis il y a quelqu'un aussi, il y a quelques temps, avec qui vous avez joué. Et ça a été une grande surprise.
Que dans la soie et la dentelle, le soir où je serai la plus belle pour aller danser.
Car vous avez permis à Sylvie Vartan de revenir à la scène.
Oh là là,
ça
là
a été
là
un bonheur
c'est...
pour elle comme pour vous.
Ah oui. Alors là, je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi humain, d'aussi simple. Mais quand on partait en tournée, parfois c'était fermé et tout, et puis on savait pas où aller manger, et puis on l'emmenait dans des pasta papa ou des trucs comme ça. Mais elle est simple. Alors c'est-à-dire que quand il y a du luxe, elle est contente. Quand c'est une petite brasserie, un petit routier, elle est contente. Elle est du moment que pour elle, l'important c'est les gens avec qui elle est.
Comme
mais
vous.
Mais c'est pour ça qu'on s'est hyper bien entendu. Et c'est la personne. Et alors tous les soirs, je l'avais à un moment donné, elle s'évanouissait dans mes bras et elle fermait les yeux. Il y avait sa chevelure blonde comme ça et tout. Et je la regardais, je me disais putain, c'est Sylvie Vartan. Ça, là, j'avais le recul, quoi. Là, je me disais, elle était magnifique, c'est Sylvie Vartan dans les bras. Mais sinon, elle, c'est la personne la plus simple, j'adore Sylvie Vartan.
Oui, et puis vous avez permis à Sylvie Vartan de réaliser un rêve.
Oui.
Elle rêvait de faire du théâtre. Elle avait fait Patate au cinéma, qui était une adaptation de théâtre de Marcel Achard, mais jamais à la scène. Et ça lui donnait envie de recommencer, à mon avis.
Oui, parce qu'elle en avait marre de chanter, enfin, d'être seule. Elle aime bien la troupe et.
Et le théâtre, ça a commencé avec Pierre Palmade, avec qui vous avez fait votre première pièce et avec qui vous avez fait aussi de la télé. C'est aussi votre bande, ça, Isabelle Mergault. L'amour sur un plateau, ça s'appelait.
C'est pas une bande, parce que mais c'est des rendez-vous qui sont toujours là. Pierre, je l'appelle. S'il a besoin de moi, il m'appelle. Mais on se voit pas en dehors du travail.
Oui, il n'y a personne en dehors du travail.
Non, de toute façon. Mais non, je ne vois personne. Mais ce n'est pas une bande, je ne dirais pas ça. Je dis que c'est quelqu'un qui fait partie de ma vie et qui fera toujours partie de ma vie et vice-versa, je prends.
Et votre vie, vous écrivez des pièces parce qu'on finalement ne vous en a jamais proposé.
Mais non.
C'est ça qui est étonnant.
On n'a jamais voulu de moi au théâtre. J'ai passé des auditions pour des troisièmes rôles, même pour... Moi, juste, madame est servie, moi, ça me suffisait. On ne voulait pas de moi. Alors je me suis dit, bon, bah, je vais arrêter d'attendre, je vais arrêter de faire des castings, et puis je vais tout faire moi-même. Tiens. Ouais.
Résultat, ça s'appelle Elle et lui, votre sixième pièce au Théâtre des Nouveautés, avec Laurent Gablon, Philippe Bieu et, tout, et beaucoup d'autres gens. C'est depuis deux jours. Alors je précise que c'est du mardi au vendredi à 21h, le samedi à 16h30 et 21h, et le dimanche à 16h au Théâtre des Nouveautés.
Oui. Oui, je voulais dire qu'il y a Jean-Louis Barcelona et Rémi Roubaca et que la mise en scène est de Christophe Duturon.
Voilà, et les décors ne sont pas de Donna Carwell, des compagnies. Voilà.
Bah non.
Merci Isabelle Mergo, continuez ainsi, ne changez rien.
C'est fini.
On va...
Oh, mais non.
Mais si, on va rendre l'antenne, parce que Philippe. D'abord, c'est Brigitte Lahaie dans quelques instants, et puis nous, on se retrouvera demain avec une autre invitée à 13h. Mais
d'accord.
C'est. Voilà, mais merci.
Ah bah ça a été vite.
Mais vous... c'est toujours vite ici. Vous revenez quand vous voulez sur Sud Radio, car comme nous, comme vous, on parle vrai. Merci Isabelle Mergo.
Merci, au revoir.
À demain.